n'est pas question de voir des centaines de milliers de personnes se ruer vers les plages au premier week-end de déconfinement. Alors que le gouvernement travaille sur l'organisation de l'après 11 mai, l'hypothèse d'un déconfinement région par région se précise. Hier en Bretagne, le chef de l'État a d'ailleurs évoqué une deuxième étape progressive, peut-être différenciée selon les secteurs d'activité et les régions plus ou moins touchées. Emmanuel Macron doit en discuter ce matin avec l'Association des maires de France, des élus locaux qui, dans leur ensemble, réclament un déconfinement à la carte. Maxence Lambrec.
Un grand écart de l'Alsace à la Normandie, des Hauts-de-France à l'Occitanie. Certaines régions, comme la Nouvelle-Aquitaine, ont été très peu touchées par le Covid-19. En Lozère, aucun décès pour l'instant. Alors forcément, les PME, les restaurateurs, les artisans de ces régions ne veulent pas que le thermomètre soit parisien, que l'Île-de-France donne le ton. Et leurs élus l'ont bien compris, ils feront passer le message ce matin au couple exécutif. Emmanuel Macron ne leur a pas fermé la porte hier lors de son déplacement en Bretagne.
On est dans une phase de préparation à une deuxième étape. Je ne dis pas un retour à la vie normale. J'ai dit parce qu'on rentre dans une phase, je ne sais pas combien de temps elle va durer après le 11 mai. Elle sera progressive, concertée, parfois lente et peut-être différenciée selon les secteurs d'activité, selon les régions plus ou moins impactées.
C'est ce que l'Académie de médecine préconise en tout cas, des règles différentes selon les régions, à rebours évidemment de notre culture jacobine. 13 régions, 13 règles du jeu, c'est intenable, souffle un pilier de la majorité. Il y aura au mieux quelques exceptions, pense-t-il. Non, le président veut faire confiance aux préfets et aux maires, ajoute un autre, alors qu'il est rien n'est tranché.
Le Premier ministre doit lui s'entretenir en visioconférence avec les présidents de région cet après-midi. Eux aussi avancent leurs pistes en fonction des impératifs de chacun. Pour Hervé Morin, président de la région Haute-Normandie, la priorité est la reprise au plus vite de l'économie.
Je ne vois pas pourquoi on aurait les mêmes conditions drastiques que celles et ceux qui ont été malheureusement les plus touchés. Et concrètement, c'est quoi ? C'est considérer que le restaurant d'un département qui a été très peu touché, où le taux de contamination est extrêmement faible, doit pouvoir être ouvert à partir du moment qu'il remplit un certain nombre de conditions sanitaire, l'espacement des tables, etc. Là où dans d'autres départements, il faut rester vigilant compte tenu de la circulation du virus. Quand vous avez des départements où le taux d'hospitalisation est entre 7 et 8 personnes pour 100 000 habitants, arrêter toute l'économie comme si on était sur l'avenue des Champs-Élysées, je pense que c'est purement et simplement suicidaire.
Un propos recueilli par Élodie Forêt. Saut de cloche différent en Corse où l'ouverture des crèches et des écoles le 11 mai représenterait un risque inacceptable pour les Corses. Estime Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, qui exige des masques pour tous les habitants de l'île et des tests en nombre suffisant. L'Académie de médecine plaide d'ailleurs pour rendre obligatoire dès à présent le port du masque dans l'espace public. On va créer une demande qu'on ne pourra pas satisfaire, estime de son côté le président de l'Ordre des médecins de la région PACA. Le retour au travail est déjà une réalité dans le secteur automobile, Toyota, Renault et bientôt PSA. La Poste a également intensifié ses tournées et rouvert des bureaux. Nous en parlerons à 8h moins le quart avec le patron de La Poste. Thibault Lefebvre, lui, a suivi une factrice d'Andernos-les-Bains au cœur du bassin d'Arcachon. Fantine livre les colis. C'est le grand format de ce 7h.
La tournée commence à 10h du matin avec le chargement des colis et c'est un peu plus compliqué que d'habitude.
Il y a tellement de colis que je suis obligée de calculer au millimètre près pour mettre tous les cartons dedans. Ça ressemble à Tetris dans le camion.
La camionnette est pleine et le compte est bon. Fantine a aujourd'hui 156 colis à distribuer.
Ça va pas être simple parce qu'en ce moment, on a énormément de colis, comme si on était en période de Noël finalement. Double ration, on va dire, de colis.
Et même triple ration, puisque le bureau de poste d'Andernos-les-Bains traite en ce moment 1500 colis par jour. C'est trois fois plus qu'en temps normal, avec essentiellement des vêtements ou des livres.
Beaucoup de livres, énormément de café.
On a vu du gravier.
Oui, du gravier. Puis d'ailleurs, quelqu'un qui refait la déco de son jardin.
La déco du jardin ou l'entretien de la voiture, comme Nicolas. Il vient de recevoir un filtre à huile pour la vidange.
Je l'attends depuis X jours.
Il était bloqué un petit peu plus haut. Vu qu'on travaille 4 jours par semaine, à partir de maintenant, ce sera un peu plus fluide.
Plus de fluidité, donc, pour la livraison des colis et des lettres, mais aussi, et c'est sans doute le plus important, plus de disponibilité pour les postiers.
Bonjour Madame Daguna.
Bonjour.
Pour la première fois depuis le début du confinement, Fantine a pu prendre un peu de temps pour venir saluer Monique, une cliente âgée et malade qu'elle voyait régulièrement jusque-là.
Ça fait qu'on se dit, on n'est pas tout seul. Quand vous êtes tout seul à parler à personne, il y a des moments, c'est long.
Bon, mais je suis contente de vous avoir revu.
Elle est super sympa, Miss Tinguette.
C'est des mots simples, mais ça fait tellement plaisir. Moi, je me considère comme un facteur de cœur.
Un facteur de cœur qui a pris du retard sur sa tournée. Fantine devait terminer à 15h. Elle sera finalement de retour au bureau de poste 2 heures plus tard.
Reportage de Thibault Lefebvre. Après Darty, Air France pourrait être le prochain groupe sur la liste des bénéficiaires de prêts garantis par l'État. Un chiffre circule déjà à la hauteur des pertes colossales de la compagnie aérienne. 10 milliards d'euros. Le détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h07, Agnès. Presque deux fois plus d'appels au numéro d'urgence de l'enfance en danger.
Dans le huis clos des appartements, les violences intrafamiliales sont en hausse. Les appels au 119 aussi. Ils ont presque doublé. Une hausse de 89% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier. Ariane Grissel.
Ce numéro, le 119, a été appelé 14 500 fois la semaine dernière. Toutes les sollicitations n'ont pas la même gravité, mais le nombre d'appels jugés urgents a augmenté, lui, de 60%. Ils sont transmis à une cellule dédiée, objectif faire intervenir rapidement les services départementaux. C'est souvent un membre de la famille qui appelle le 119, mais aussi les victimes elles-mêmes ou leurs jeunes copains et copines qui restent en contact avec elles et se rendent compte que quelque chose ne va pas. À noter aussi une plus grande vigilance des voisins. Leur part dans les appels a augmenté de 80% par rapport à l'an dernier. Les personnes qui voudraient joindre le 119 peuvent aussi le faire en ligne depuis le début du mois sur le site allo119.gouv.fr. Sur toutes ces sollicitations, une minorité nécessite l'intervention immédiate de policiers ou de gendarmes. 27 cas ces deux dernières semaines contre 8 d'habitude. Plus largement, depuis le début du confinement, 92 enfants ont dû être placés en urgence pour échapper à des violences chez eux.
En France, un enfant meurt tous les 5 jours des suites de mauvais traitements. Plus de 50 000 subissent des violences. Le numéro d'appel gratuit, anonyme et qui n'apparaît pas sur le facture, c'est le 119. Les chiffres de l'épidémie en France avec 544 morts au cours des dernières 24 heures et un bilan global de 21 340 décès avec, pour la première fois, 3 décès signalés dans le Cantal, un département jusqu'ici épargné par l'épidémie. Jérôme Salomon a évoqué hier soir un foyer d'infection au sein même du service de médecine générale de l'hôpital de Saint-Flour. La lutte contre le coronavirus sera longue, a déclaré hier soir l'Organisation mondiale de la santé. Seule la mise au point d'un vaccin permettra un retour à la normalité, estime de son côté l'ONU. Les premiers essais cliniques sont menés en ce moment en Allemagne et au Royaume-Uni.
Il est 7h09, l'Union européenne à l'épreuve du coronavirus.
Épreuve sur le plan sanitaire où chaque pays met en place sa stratégie et son calendrier. Épreuve sur le plan économique avec un 4e sommet européen des chefs d'État et de gouvernement qui se tient aujourd'hui en visioconférence. Le fonds de relance souhaité par la France et l'Italie sera bien discuté, mais les décisions sont déjà renvoyées à plus tard. De quoi faire douter sérieusement les Italiens de l'utilité même de l'Union. Bruce de Gelsin est à Rome pour France Inter.
Un Italien sur deux se dit prêt à quitter l'Union européenne. Ils étaient 30% l'année dernière. Un euroscepticisme qui donne des ailes à Giorgia Meloni du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Nous versons 100 milliards d'euros tous les 7 ans à l'Union européenne. Toutes les nations se sont enrichies sur notre dos grâce à notre travail. Et la première, c'est l'Allemagne, avec la monnaie unique faite pour ses propres intérêts. Et la seconde, c'est la Hollande, avec son paradis fiscal qui enlève des ressources à tous les pays membres. Que l'Europe n'attende pas la solidarité de l'Italie quand cela ira mieux si elle ne sait pas être solidaire aujourd'hui alors que nous sommes en pleine tempête. Une tempête chiffrée à moins 15%, c'est l'estimation de la chute vertigineuse de la croissance au premier semestre en Italie, du jamais vu. Alors, le président du Conseil, Giuseppe Conte, est moins virulent. Pour obtenir davantage de solidarité, il n'évoque plus les eurobonds, mais le fonds de relance. Ce nouvel instrument financier devra être conforme aux traités européens. Il devra être financièrement consistant et devra être immédiatement disponible. Giuseppe Conte ne se dit pas opposé à ce que le fonds soit financé par le budget européen, mais il sera adopté dans 6 mois. Entre-temps, l'Italie aura déjà besoin d'argent. Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
La ruée vers les burgers et les frites, Nicolas, avec de longues files d'attente devant les quelques McDo qui ont été autorisés à reprendre la vente à emporter en Ile-de-France. Visiblement, certains étaient en manque. Reportage dans le Val-d'Oise à Garges-lès-Gonesse d'Adjera Mohamed.
C'est peut-être une petite question pour vous.
Frites coca, madame ?
Mais ô combien symbolique pour les amoureux de burgers.
Avec ceci ?
Au drive, une vingtaine de voitures font la queue à 16h. Après tout, c'est l'heure du goûter. Mais surtout pour Kaina, ça faisait longtemps, trop longtemps.
On n'en peut plus, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de McDo. Du coup, on est obligé de prendre une dose.
Et devant la borne de commande, les clients se lâchent.
Les nuggets, sauce curry, des frites, tout. On va même en prendre 2-3 des menus, on va les stocker dans le congélo, hein, je crois.
D'autres n'attendent pas pour savourer. Alex et ses amis improvisent même un petit pique-nique.
Sur le coffre de la voiture. Improvisé, en plus il fait beau, donc c'est très bien.
Et sur le justificatif de déplacement, un motif totalement assumé.
La première nécessité, nourriture.
Ajouter à ça les voitures avec 3, parfois 4 passagers à bord. Pas très confinement compatible tout ça, mais tant pis, Ilyes profite de cette rare sortie.
Il n'y a plus d'activité, on ne sort plus, on ne fait rien, donc c'est bon.
Même sensation pour Maïcha et Farah, venues entre copines.
Un esprit d'être libre, de sortir, de voir des gens, ça fait du bien.
Mais un burger et des frites, on peut les faire aussi maison.
C'est pas les mêmes.
C'est pas la même sauce.
Le McDo, il y a quelque chose de spécial à l'intérieur.
Je pense qu'il y a de l'addictif.
Et oui, qui aurait cru que derrière une frite se cachait un bout de liberté pour certains. Alors dégustez bien, mais surtout dégustez à la maison.
L'ingrédient spécial, reportage à retrouver sur francebleuparis.fr.
Et enfin, un rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur Arte.
Dérapage, une série en 6 épisodes avec Éric Cantona dans le rôle titre, Pierre Lemaître, prix Goncourt pour Au revoir là-haut à l'écriture, et Ziad Doueri, réalisateur de Baron Noir derrière la caméra. Le tout pour un thriller social décoiffant qu'Alexandra Akoun a vu pour nous.
Je m'appelle Alain Delambre. Sur le marché du travail, un senior, c'est le dernier type qu'on embauche quand il y a du boulot. Et le premier qu'on vire quand il y a une charrette. Ma charrette à moi, montait déjà 6 ans.
Crâne rasé, grosse bacante, c'est cet homme qui nous raconte son histoire, celle d'un déclassé, à bout de nerfs, humilié, à qui une multinationale va faire miroiter un emploi.
Nicole, je suis convoqué à l'entretien. C'est incroyable.
Les choses vont s'arranger.
Sauf que tout cela n'est qu'un leurre, une machination cynique sortie du cerveau d'un jeune loup du CAC 40.
Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence.
De quoi mettre Alain Delambre en colère, très en colère.
Là, mon vieux, il va falloir se calmer.
Ta gueule ! Mais t'as là, c'est les chômeurs au pouvoir. T'es chômeur ? Non.
Éric Cantona.
On parle beaucoup de la violence physique, hein. Mais on parle rarement de l'humiliation, la violence des mots. C'est souvent bien pire.
En adaptant lui-même son polar social sorti en 2010, qui porte un regard cru sur un monde moderne déshumanisé, Pierre Lemaître en a parfaitement retranscrit le rythme effréné, l'humour aussi.
Il y a une ironie par rapport au système. Comme dans certains films de Ken Loach, plus il y a d'humanité, au plus l'humour est efficace et l'humour est intelligent.
Quant à l'ancienne star du football, qui n'avait jamais tourné dans une série, ce rôle lui va comme un gant, son plaisir est manifeste.
Une histoire comme ça, un personnage comme celui-là, écrit par Pierre Lemaître, dirigé par Ziad Doueri, ça m'arrivera peut-être plus dans ma vie. J'ai vécu un moment extraordinaire.
Le tout donne un thriller haletant qui, en ces temps de remise à plat, donne aussi à réfléchir sur le fameux jour d'après.
Dérapage, 3 épisodes ce soir sur Arte, les 3 autres jeudi prochain, mais déjà tout est disponible sur arte.tv.
Merci Agnès Soubiron.